au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour et bienvenue dans notre seconde émission au fil des pages en compagnie d'Evelyne Sullereau. Evelyne Sullereau, vous êtes correspondante de l'Académie des sciences morales et politiques, membre honoraire du Conseil économique et social et puis également cofondatrice du mouvement français pour le planning familial. Et c'était avec Marie-Andrée Vaillalet que vous avez fondé ce mouvement en 1956 et nous fêtons d'ailleurs cette année les 50 ans de la création de ce mouvement. Alors, dans notre émission au fil des pages, nous évoquons votre ouvrage « Pilule, sexe, ADN, trois révolutions qui ont bouleversé la famille » publié chez Fayard en avril 2006. Lors d'une précédente émission, nous avons traité de votre première grande partie que vous avez intitulée « La période pré-révolutionnaire » qui s'est allée entre 1945 et 1965. Aujourd'hui, nous nous intéressons à deux grands chapitres de votre ouvrage « La révolution contraceptive et la révolution sexuelle ». En 1967, pour la première fois, les femmes ont entre leurs mains un outil de prévention des naissances qui est la pilule. Pour la première fois, elles vont pouvoir avoir une sexualité épanouie sans angoisse. Elles vont pouvoir en quelque sorte planifier leur vie. Et cette année 1967, vous faites une remarque judicieuse. C'est l'année où à la fois on légalise la contraception et l'année où les jeunes filles sont pour la première fois les plus nombreuses à passer leur bac.
C'est l'année où pour la première fois il y en a autant que de garçons.
Ah,
et après
garçons.
Il va y en avoir davantage.
Ah.
Puisqu'elles vont être plus nombreuses que les garçons. Bon, disons donc que j'ai terminé en disant que la révolution contraceptive, c'est donc l'affaire des femmes. Elles vont devenir les décideuses, les parents numéro un. Et alors, elles vont, en somme, avoir l'écoute à la fois des juristes, du législateur, etc. Parce qu'on s'aperçoit alors qu'on a été très injuste avec les femmes. Tout le mouvement féministe de l'époque, c'était « bon, les hommes ont été abominables, etc. » Et plusieurs lois vont aller flatter les femmes, et particulièrement les flatter dans leur rôle de mère.
De leur pouvoir
et on
de
va
procréer.
Dans leur pouvoir même de mère. Parce que du fait que maintenant, elles font des enfants quand elles le décident, mais si elles peuvent décider de ne pas en avoir, elles vont considérer la maternité, non plus comme une charge, mais comme un pouvoir. Et on va voir s'ouvrir environ 25 années de crise de paternité, pour la paternité. C'est-à-dire que, toutes glorieuses, là, elles vont dédaigner beaucoup la part du père. Il y en a beaucoup qui vont considérer que, avant, elle voulait absolument se marier, la bague au doigt, c'était absolument un statut nécessaire.
Bien sûr.
Mais maintenant qu'elle travaille, etc., elles vont être de moins en moins enthousiastes pour le mariage. Et donc, la chute du mariage, qui a été énorme, c'est à peu près moins 40%. Donc, c'est presque moitié.
Entre oui. Quand et quand, en fait.
Voilà. Eh bien, la chute du mariage commence en 1971. Bon, il y a à ce moment-là 417 000 mariages et il n'y en a plus que 283 000.
Et
ça ne remonte pas. Hein, les gens sont persuadés en 2006 que...
Oui, c'est vrai.
Non, ça ne remonte pas. On est toujours à un niveau très bas. Mais ce que je veux dire là, c'est que les femmes ne recherchent plus tellement le mariage et d'autre part, ne sont pas du tout les dernières à vouloir divorcer quand elles sont mariées. Parce que comme elles ont acquis une autonomie du fait qu'elles travaillent, on s'aperçoit, alors en tout cas en ce qui concerne ceux qui se sont mariés à la mairie, et où on peut voir les statistiques judiciaires des divorces, que les divorces sont initiés par les femmes dans la proportion de 75%. C'est-à-dire, ce ne sont pas les hommes qui demandent le divorce, ce sont les femmes.
Parce qu'elles ont une autonomie financière qui leur permet de et prendre la liberté.
Aussi pour une autre raison, on a beaucoup étudié cette étrange situation, parce qu'elles investissent beaucoup plus dans le mariage, elles en attendent davantage, elles sont beaucoup plus prêtes à être déçues et désappointées. Et donc, à ce moment-là, elles cassent tout parce qu'elles sont sûres d'avoir les enfants. Et quand, dans cette période qui va s'ouvrir, disons, qui va de 1965 à 1990 à peu près, c'est la grande crise de la paternité, il est certain que les hommes apprennent un beau jour que leur femme veut divorcer, et eux, j'en ai interviewé des centaines, qui avaient toujours la même phrase. Je sais bien que les choses ne marchaient pas à la perfection, mais enfin, tout cassé. C'est-à-dire qu'eux, ils perdaient leurs enfants. Ils perdaient leur femme, leur logement et leurs enfants. Elles, elles gardaient les enfants. Elles étaient sûres de les avoir. Elles avaient raison d'être sûres de les avoir. Parce que quand on observe la manière dont ont été rendus les jugements de divorce à partir de cette période-là, on s'aperçoit que les juges, qui s'appelaient d'abord les juges aux affaires matrimoniales, qui sont devenus les juges aux affaires familiales, n'ont pas eu du tout confiance dans ce que j'appelle le couple parental. C'est-à-dire le père et la mère séparés, ça ne leur inspirait pas confiance, et donc ils ont donné l'enfant à la mère et ils ont fabriqué des familles monoparentales pendant 25 ans.
Il n'était pas le question de garde partagée, voilà.
Voilà. Par exemple, au tribunal de Paris, on lui remettait une feuille renéotypée. Donc, il se sentait dans une série de gens où on lui disait qu'il aurait droit à ça, et qu'il était condamné à pension. Condamné.
Condamné.
Condamné à pension, pour une chose qu'il n'avait pas voulu, très souvent. Donc, si vous voulez, un rôle de payeur et non plus d'éducateur pour les pères, et c'est une longue crise qui s'amorce et qui va avoir des retentissements importants sur les enfants. Parce que les enfants élevés par une mère seule ont quand même, je le dis, nous le verrons peut-être dans la partie suivante, des problèmes de santé psychique, des problèmes de socialisation qui sont tout à fait...
Pour les enfants.
Oui. Donc, à la fois une sorte de gloire des femmes, à la fois dans le monde du travail, dans la planification de leur vie et dans la maternité... Et elle se voit octroyer l'autorité parentale au moment de la loi de 70. Avant, c'était la puissance paternelle.
Oui. Hop, c'était le chef exit, de famille.
Exit la puissance paternelle. Et là, maintenant, ça devient l'autorité parentale qui est partagée entre le père et la mère. Mais s'il y a séparation, c'est presque toujours la mère qui l'a.
On penserait à une revanche, en fait, sur
c'est
le,
tout à fait vrai,
du
parce
père
que
et de la
à
mère.
L'époque, quand j'ai commencé à écouter les pères qui voulaient voir leurs enfants, et etc., et j'allais voir des magistrats en leur disant « Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même ?» Et j'ai eu cette réponse. Vous savez, les hommes ont abusé de leur situation si longtemps que c'est bien le moindre qu'il y ait une sorte de revanche. Mais revanche de génération comme ça, finalement, c'est les enfants qui trinquent. Hein. C'est pas parce que les pères au col dur d'autrefois ont été d'affreux pater familias qu'il fallait évincer les pères de l'éducation des enfants. Mais ça a été quand même une période où on ne s'est pas rendu compte du tout, justement, de cette crise de la fonction paternelle. Et les psychanalystes qui étaient à ce moment-là les rois, tout à fait, disaient toujours, de toute façon, le père est incertain, la mère est beaucoup plus importante, le père c'est celui que désigne la mère, c'est la mère qui dit voilà ton père, etc., etc. Donc on a vécu dans une sorte de matriarcat de l'éducation, au moins jusqu'au moment où c'est en 1991 seulement qu'on a pu prouver que le père est génétiquement le père pour la première fois depuis que le monde est monde. Et que les psychanalystes ont bien dû s'en rendre compte que le père n'était pas incertain. Autrefois, les juristes disaient ça en latin, ils disaient « mater certissima, pater semper incertus ». Le père est toujours incertain, la mère est très certaine. Bon. Donc, cette période-là va laisser les hommes à la fois frustrée du côté paternel, comme je viens de le dire, mais extrêmement libérée à l'idée que maintenant, on ne faisait pas des enfants chaque fois, parce qu'il suffisait de demander à la femme de prendre la pilule, etc. Et donc, ils ont initié, dans les années 70, ce qu'ils ont eux-mêmes appelé la révolution sexuelle, parce qu'il y a eu un manifeste qui s'appelait comme ça.
Oui.
Et ce sont des anciens 68ards qui avaient lu Wilhelm Reich, lequel Wilhelm Reich avait été chassé du parti stalinien, si vous voulez. Il avait considéré donc que le nazisme et le stalinisme, qui étaient les deux mots les plus épouvantables qui avaient assombri le XXe siècle, étaient dus au fait qu'on avait utilisé l'énergie sexuelle des hommes pour appartenir au parti, faire la guerre, pour, etc., etc. Et que la seule manière de combattre les totalitarismes, c'était la libération sexuelle, c'est-à-dire que l'individu puisse jouir en liberté de façon individuelle et non pas mettre son énergie vitale comme ça au service de je ne sais quel dictateur. Non. Et ça a enthousiasmé nos jeunes 68ards.
Qui pouvaient casser l'image de leurs parents, l'image qui se faisait de schéma familial de leurs parents.
Comme je venais de le dire précédemment, leurs parents n'avaient pas divorcé. Aujourd'hui, on serait plutôt reconnaissant pour ses parents de n'avoir pas divorcé et d'avoir préservé la maison familiale, etc. Et pas du tout. Ils ont considéré que le mariage était ridicule, que leurs parents étaient ridicules, qu'ils avaient usé complètement, de façon absurde, leur vie, leurs sentiments, leurs idéaux, dans une sorte de petite vie comme ça, liée l'un à l'autre. Enfin, ça leur semblait stupide.
Ça leur semblait désuet, suranné.
Oui, plus que ça même. Ça leur semblait abîmer la belle vitalité et la sexualité, etc. D'autre part, il y a eu, en 68, on oublie toujours, des véritables utopies de, par exemple, les communautés. Les communautés qui ont... Il y en a eu encore plus dans les pays nordiques et en Belgique qu'en France, mais il y en a eu beaucoup en France. C'était des jeunes gens et des jeunes filles qui vivaient ensemble, tous sans rien posséder. Hein, c'était une sorte de communauté. Et tout le monde devait coucher avec tout le monde. Au point que je cite le cas historique d'une communauté danoise où un bébé est né et où 15 pères l'ont reconnu. Donc, c'était l'idée qu'il fallait casser la famille et qu'au lieu de la famille, on allait avoir les communautés. Pour vous dire à quel point ces idéologies anti-famille ont eu de succès, le commissariat au plan en France, en 1970, a écrit dans son groupe prospectif de la famille, que la famille allait être de moins en moins présente et qu'il y aurait de plus en plus de communautés. Alors, je ne sais pas comment les gens de 40 ou 50 ans vivraient, mais ils voyaient que des communautés de jeunes cassant les couples, comme ça, si vous voulez, pour la liberté sexuelle. Alors, cette liberté, cette révolution sexuelle, elle a donc été initiée par les jeunes hommes qui ont vu dans la pilule, la révolution contraceptive et tout, la possibilité donc d'une sorte d'épanouissement. Ça y est, maintenant, on ne risque plus rien.
Oui, ce qui était au départ le cas pour ces femmes au tout début. Pour ces femmes qui avaient
cette contraception. Les femmes n'ont pas lancé la révolution sexuelle, mais très très rapidement, disons quelques mois après le manifeste des jeunes hommes, les féministes femmes ont manifesté en disant « Votre révolution sexuelle n'est pas la nôtre ». Et elles ont même ajouté « L'oppression est au bout du phallus ». Donc, pour elles, la révolution sexuelle vue par les mâles, c'était l'érotisme partout et la femme objet. La première effet, si vous voulez, de la révolution sexuelle a été, en somme, de dresser les sexes l'un contre l'autre. Les hommes se sont mis à se méfier des femmes et les femmes se sont mises, c'est elles qui ont commencé à se méfier des hommes et les hommes à se dire, mais enfin, est-ce qu'ils imaginaient que toutes les femmes soumises à leur fantaisie? Alors, en fait, ce sont des acteurs qui ont été quand même relativement mineurs à côté de ce qui va venir derrière. Oui. C'est ce que j'appelle les commerçants, c'est-à-dire le marché du sexe.
Le marché du sexe.
C'est-à-dire ceux qui ont vu dans cette révolution sexuelle, l'occasion d'un marché juteux et où on allait vendre de tout, à tous les appétits sexuels. Je veux dire qu'on allait influencer la mode, les loisirs, la lecture, le langage, les films, les...
Parce que nous sommes également dans une société de consommation, en plein dans les Trente Glorieuses.
Voilà, voilà, exactement.
Où tout est jubilatoire. Et
oui, mais ça se transforme en affaires. Alors, disons que des fortunes ont été faites. C'est une véritable industrie maintenant. Mais en même temps, maintenant, ça a pénétré dans les foyers avec la télévision. Donc, ça touche même les enfants, même la pornographie. Vous avez des enfants qui finissent par voir des films pornographiques beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Et puis ensuite, ça envahit Internet. Et donc, par le biais de cette sorte d'industrie, tout a changé. Et en même temps que le vocabulaire, l'expression de la culture dans les films, les livres, etc., se sexualisait, s'érotisait en quelque sorte, en même temps, il y a eu de plus en plus de difficultés des jeunes gens et des jeunes filles à exprimer leurs sentiments. Une sorte de pudeur du sentiment auquel on ne croit plus tellement.
On mélange sentiments et...
Et la peur terrible des engagements. Mmh. C'est-à-dire que l'idée de promettre, on a vu donc le mariage baisser très très rapidement, parce que c'est l'idée de la grande révolution individualiste, révolution sexuelle et individualiste, c'est il faut s'assurer donc de la sincérité, de l'authenticité et de l'intensité dans l'instant, l'immédiateté. Mais on ne va pas aller faire des promesses pour l'avenir, on ne va surtout pas s'engager pour demain. Donc, le résultat dans mes fameuses statistiques de famille, ce sont les séparations et les divorces. Parce que les individus cherchant chacun son épanouissement absolu, c'est-à-dire sa réalisation érotique, etc., du moment où elle s'use, du moment où on passe de l'éblouissement à quelque chose d'un petit peu ennuyeux, a envie de se séparer, de
l'individu
chercher...
L'individu reprend le dessus. On et revient oui, même si on vit en couple.
Et veut chercher ailleurs. Mmh. Et donc, l'individu passe avant le couple et le couple passe avant la famille. Et même s'il y a des enfants, on se sépare. Et donc, on voit, par exemple, les divorces passer d'un divorce pour 10 mariages à un divorce pour 2. Et il faut se dire que les séparations des couples non mariés sont encore plus précoces et encore plus fréquentes. Donc, il y a encore plus de séparations de concubins qu'il n'y a de divorces. Et les effets de la révolution sexuelle sur les couples, c'est un peu une difficulté de rapport entre les hommes et les femmes, parce que s'instaure un peu la méfiance. On ne se fait plus la cour, on drague. Oui, mais le vocabulaire
oui,
est bien
sûr,
là.
Le vocabulaire est, oui. Est le reflet de ce qui se passe, oui.
Avant, on abordait une femme. Un homme abordait une femme. Maintenant, il drague. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça veut dire qu'il racle dans le fond. Non. D'autre part, on ne s'écrit plus de lettres d'amour. Il y a une très grande difficulté, donc, à imaginer un couple.
Il faut tout de suite du concret. Il faut entrer dans les faits. Hein,
oui, et le dur désir de durer dont parlait Paul Éluard, il se heurte à l'idée qu'on ne peut être authentique et sincère que dans l'instant. Et que... Donc, les victimes de ça, ça va être les enfants.
Ça va être les enfants. Alors, ce qui est très particulier, c'est que finalement, au départ, si on revient à cette révolution contraceptive, c'est une bonne chose.
Elle est irréversible.
Voilà.
Mais là, je viens de parler de la révolution sexuelle. Je ne sais pas du tout ce qu'elle va devenir. Mm-hmm. Et vraiment, je crois que personne ne peut le dire. Est-ce qu'elle va encore s'accentuer et encore se radicaliser et encore nous montrer que tout s'érotise, à commencer par Internet, et toucher les enfants de plus en plus jeunes, parce qu'on voit les enfants à l'école maintenant, à l'école primaire, ont déjà un vocabulaire érotique. Ils savent des choses sexuelles alors qu'ils n'ont pas dit du tout l'idée de ce que c'est que l'amour. Ou bien alors, la pudeur va revenir comme une sorte de mal nécessaire ou de bien nécessaire, je ne sais pas. En fait, je n'en sais rien du tout. On voit aux États-Unis les deux choses à la fois. on voit à la fois que l'industrie du sexe continue et en même temps
il y a un certain puritanisme,
qu'il y a un puritanisme très grand qui se développe les deux à la fois. Donc je suis incapable de dire mais la révolution contraceptive elle va pas s'arrêter.
Oui. Mais c'était dans l'idée de dire que finalement en mettant vraiment les hommes et les femmes l'un en face de l'autre, et c'est vrai qu'ils se livrent un
c'est
combat.
Surtout en recherche individuelle. Oui. Si vous voulez, au lieu de rechercher le couple et ensuite la famille, c'est-à-dire de construire une unité nous-couple et une unité nous-famille, il y a toujours cette recherche individuelle, par exemple chez les jeunes filles, la peur d'être piégée. Hein? Donc si je me marie, si, etc., après je suis piégée, je ne peux pas en sortir. Et les hommes ont toujours aussi cette peur. Hein? Ce qui fait que tant que la société ne voit pas que l'individualisme finit par retomber sur chaque individu, par exemple du point de vue économique, prenons l'Espagne par exemple, dont tout le monde dit qu'elle est dans une phase de modernisme formidable et où il y a eu la Movida, vous savez, cette sorte de révolution justement sexuelle, etc. L'Espagne ne fait plus d'enfants. Dans 30-40 ans, l'Espagne se heurte à un mur.
Oui. L'Allemagne également, je crois que c'est la même chose.
Alors, l'Allemagne, ça a commencé avant. Mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. Ce n'est pas à cause de tout d'un coup, on a ouvert les vannes à la révolution sexuelle. C'est plutôt parce que Hitler avait tellement parlé de natalité, de populationnisme, de naissance, etc., que tout ce qui était nataliste était considéré comme nazi.
D'accord, mais, il y avait l'amalgame qui était fait.
Mais si je parle de l'Espagne, c'est parce que voilà un pays où l'individualisme avec révolution sexuelle devient roi et crée une impression de très forte culture, riche et tout. Regardez les films à Cannes cette année, c'était avant tout Almodovar, etc. Bon. Et en même temps, se dire qu'inéluctablement, du fait qu'ils ne font pas d'enfants, il y aura un contre-coup collectif qui va toucher tous les individus, parce que tout de même, un pays, c'est aussi une collectivité.
Alors, dans votre ouvrage, vous précisez que révolution contraceptive et révolution sexuelle ne vont pas de pair.
Oui,
et vous citez l'Algérie, le Maroc, la Tunisie.
Oui, parce que la plupart des gens pensent que, et surtout les hommes, pensent que du moment où il y a eu la pilule et le reste, là, la contraception, on a glissé forcément, puisque dans la révolution sexuelle. Inéluctablement. Non, regardez les pays du Maghreb, par exemple, ont fait une révolution contraceptive encore plus rapide que la nôtre, puisqu'ils sont passés de 6 enfants par femme à 2, par exemple, que l'âge du mariage des filles est de plus en plus tardif, qu'ils ont véritablement une réduction de la natalité qui montre qu'ils utilisent la pilule, ils utilisent le stérilet, etc. Mais il n'y a pas la moindre révolution sexuelle. Essayez de publier un livre pornographique en Algérie, vous verrez ce qui vous arrivera. Bon, et je dirais que la religion réussit complètement à faire la révolution contraceptive, mais sans révolution
sans
sexuelle.
Sans induire la révolution sexuelle.
Oui.
Merci Evelyne Sulereau pour cette seconde émission au fil des pages, en votre compagnie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Pilule, sexe, ADN, trois révolutions qui ont bouleversé la famille, publié chez Fayard en avril 2006. On se retrouve très prochainement pour une dernière et troisième émission dans laquelle nous nous tournerons cette fois-ci vers l'avenir, puisque vous nous expliquerez en quoi consiste la révolution génétique et en quoi elle va modifier les schémas familiaux traditionnels. Au revoir et à très vite.